L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
La semaine dernière, le Sénat a adopté une proposition de loi sur le statut de l'élu local. Elle doit encore repartir à l'Assemblée pour une deuxième lecture. Une proposition qui vise notamment à améliorer les conditions d'un mandat d'élu local. Parmi les problématiques soulevées, concilier vie personnelle, vie professionnelle et mandat, la protection juridique ou encore les indemnités. Une réponse à un ras-le-bol qui se fait entendre notamment de la part des maires. Depuis 2020, c'est près de 2200 maires qui ont démissionné en France, soit une quarantaine par mois. Et cet épuisement des élus s'est fait entendre dernièrement dans le département le samedi 18 octobre lors du 77e congrès des maires adjoints et présidents d'intercommunalité de la Sarthe. Mais quelles sont précisément les problématiques des élus? Quelles difficultés concrètes éprouvent-ils durant leur mandat? Et quelle réponse vient apporter la proposition de loi? Nous sommes avec Thierry Kozik, sénateur de la Sarthe, qui a participé à la deuxième lecture du texte la semaine dernière au Sénat. Bonjour Thierry Kozik.
Bonjour.
Alors pour commencer, peut-être faut-il rappeler tout simplement quelles sont les missions d'un élu local en fait.
Les missions, elles sont de... Tout dépend de la collectivité dans laquelle l'élu est engagé. Si c'est dans une commune, clairement, c'est de gérer, mais de gérer le budget, les finances de la commune, mais aussi de faire que chaque citoyen puisse bien vivre dans sa commune. Voilà, c'est le garant du vivre ensemble.
Et alors, donc 40 maires qui démissionnent par mois en France, c'est les chiffres que je rappelais en introduction. Ajoutons tous ceux qui ne comptent pas se représenter pour les municipales de 2026. Quelles sont les raisons en fait qui poussent à autant de démissions? Qu'est-ce qui ne va pas dans la fonction de maire?
Alors, écoutez, on sort d'un mandat, c'est vrai qu'on arrive au terme. Le mandat 2020-2026 est un mandat particulièrement difficile. Il a commencé par près de 2 ans de crise sanitaire, après une crise économique liée principalement... la crise énergétique et donc des difficultés budgétaires. Et tout cela couplé dans un moment particulier où on sent quand même que le maire aujourd'hui est plutôt l'élu à portée de baffe, si vous me permettez l'expression, avec des conditions de citoyens qui sont de plus en plus exigeants, qui se revendiquent un certain nombre de droits, mais qui souvent aussi ne jouent pas leur rôle pleinement, notamment en matière de devoirs. Et je crois que c'est ça, c'est tout cet ensemble, tout cet écosystème avec... En plus des fonctions de plus en plus compliquées sur le plan administratif, ce sentiment en fait d'abandon qui fait qu'à un moment, les élus ont envie de jeter l'éponge, et je crois que c'est assez significatif sur ce mandat.
Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est vrai que le maire, c'est l'élu local le plus proche des citoyens. Selon une récente enquête du Cevipof, le maire reste l'élu à qui on accorde le plus facilement sa confiance, avec un taux de 69%. Pourtant, lors du dernier congrès des maires en Sarthe, certains élus parlent d'un manque de respect. Donc, vous dites celui à qui on met des baffes. Les violences contre les élus ne cessent d'ailleurs de se multiplier depuis 2022. Donc, concrètement, ça veut dire que les maires font office de bouc émissaire, Thierry Kozik?
Ouais, bouc émissaire, je ne sais pas, mais il est très clair qu'aujourd'hui, on voit bien, c'est qu'il y a un certain nombre de concitoyens, et notamment, je le redis, après la crise sanitaire, qui exprime des vraies frustrations, et aujourd'hui, quel que soit l'interlocuteur qu'ils ont en face, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à accepter de pouvoir se raisonner. Je crois que c'est ça, c'est les conditions du vivre ensemble qui sont aujourd'hui remises en question. Vous savez, on a une commune, elle est à l'image aussi de la société, des gens de plus en plus individualistes. Et le maire essaye de garder ce lien pour pouvoir faire que tous ces rouages soient bien huilés. Et souvent, on le voit, et je le regrette, de plus en plus d'élus, et notamment de maires, qui sont agressés. Il y a un moment, un vrai ras-le-bol qui les pousse à la démission, ce qui n'est pas nouveau. Quand on regarde le mandat précédent, il y avait eu déjà, entre 2014 et 2020, un certain nombre de démissions, mais qui a tendance à s'amplifier.
Et d'ailleurs, sur ces agressions, la proposition de loi prévoit une meilleure protection judiciaire des élus. La protection fonctionnelle est étendue à tous les élus locaux victimes de violences, d'outrages ou de menaces. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment protégés actuellement?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est des situations nouvelles. Il y a 30 ans, c'était pas des situations. Il y avait un respect, vous savez, souvent dans les villages... entre le maire, le curé et l'instituteur, en fait, on avait les trois autorités sur lesquelles il y avait un vrai respect. C'était les trois autorités de la commune. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, avec une vraie défiance à l'égard notamment des institutions. Et donc, il était important que le législateur, à un moment aussi, accorde des droits plus poussés, que la commune se mette au service de l'élu quand il s'engage. Et cette proposition de loi, elle est arrivée à un moment où on sent qu'il y a un vrai désengagement. Moi, je suis très surpris de constater au quotidien, et je suis un élu qui parcourt beaucoup le territoire, qui est très présent sur le terrain, du nombre d'élus, notamment de jeunes élus, qui font le choix de faire qu'un mandat et d'arrêter parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'épanouissement dans la fonction. Et cette proposition de loi, elle avait vocation en fait à accompagner et encourager les candidatures pour 2026.
Alors tiens, Cozic, on rappelle que la proposition de loi dont nous parlons a pour but de réformer le statut de l'élu local. Cependant, certaines mesures se portent sur le statut de l'élu pendant son mandat, mais d'autres mesures portent sur l'avant et l'après-mandat, donc oui. Avant qu'il soit élu et après qu'il soit élu. Comment ça fonctionne
en fait, l'idée, en fait, je peux très bien parler de la partie après, puisqu'il y a une partie des articles qui ont été écrits suite à une mission flash que j'avais menée pour la délégation aux collectivités, qui est sur l'après-mandat, qui aujourd'hui est un vrai impensé de la vie politique. C'est-à-dire que vous faites un mandat, on acquiert une certaine expérience, notamment, moi, je vois, j'ai été maire pendant 6 ans, en matière d'urbanisme, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, on acquiert cette expérience, et en fait, une fois que le mandat est terminé, ben, en fait, elle est perdue. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner, à un moment, de faire de la validation de l'expérience et des acquis, et de pouvoir la valoriser auprès de collectivités. Alors, ça concerne principalement des élus qui peuvent être en activité, mais aussi mettre à profit toute cette expérience pour à la fois, ça peut être des fonctionnaires territoriaux, mais aussi des élus qui s'engagent.
Et parce que pendant le mandat, la principale problématique des élus locaux, c'est de concilier vie professionnelle, vie personnelle et mandat d'élu. 60% des maires du précédent mandat pratiquaient toujours leur activité professionnelle. Tiens, Cozic, c'est vrai qu'on peut se demander comment travailler dans une entreprise, par exemple, et en même temps gérer une commune. Est-ce que la proposition de loi devrait permettre de rendre davantage possible cette double casquette?
Alors, cette proposition de loi, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'avancer. Et je crois que là, on était quand même à un moment charnière. Il faut qu'à un moment, on puisse avancer dans la protection des élus, dans la notion d'engagement, mais aussi d'indemnisation. À un moment, ça prend beaucoup de temps. Et je crois que nos concitoyens ne mesurent pas ce que c'est que aujourd'hui l'engagement d'un élu. C'est près de 60, dans les petites communes, je vois bien, le maire et le conseil municipal, ils font tout. Mais quand je dis ils font tout, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne mesure pas l'investissement personnel. Et je crois qu'à un moment, il faut aussi que la République rende hommage à ses élus de proximité. Ils sont là pour assurer, je le redis, le vivre ensemble. Et je crois qu'il était important de leur donner des moyens supplémentaires, que ce soit en matière de formation, de validation de l'acquis, mais aussi de rémunération. Voilà, il y a tout un nombre de choses sur lesquelles on doit s'engager. Ça ne règle pas tous les soucis. Faut être très clair, c'est pas la révolution dans le statut de l'élu, mais ça va permettre, me semble-t-il, d'avancer et de les protéger mieux.
Alors surtout en ce qui concerne cet aspect rémunération, justement, je vais rappeler quelques chiffres. Donc, c'est vrai que pour les communes de moins de 500 habitants, l'indemnité brute est de 1048 euros, donc ça fait léger. Par contre, à partir de 1000 habitants, l'indemnité dépasse les 2000 euros, jusqu'à 5960 pour les villes de plus de 100 000 habitants. Donc à la limite, quand on atteint ces chiffres-là, il est possible de vivre avec les indemnités. Par contre, c'est pour les adjoints et les conseillers que ça se complique. Un conseiller municipal, surtout, ne touche qu'une indemnité de 246 euros brut. Pourtant,
dans les communes de plus de 100 000 habitants.
Dans les communes de plus de 100 000 habitants. Et donc, dans les communes de moins de 100 000 habitants.
Le code général des collectivités territoriales qui encadre les élus, qui encadre les fonctions de maire, de conseiller municipal, dit clairement qu'un mandat est gratuit. Voilà. Les fonctions sont gratuites. Simplement, on touche des indemnités pour défrayer des frais que vous engagez au quotidien. C'est les frais de route, ça peut être aussi des frais d'habillement quand il faut acheter un costume. Voilà, donc c'est ça. L'indemnité, elle couvre simplement des frais qui n'auraient pas été engagés dans la vie personnelle. Ce n'est pas un salaire aujourd'hui. Donc ces rémunérations, en fait, c'est pas... D'ailleurs, quand on regarde comment sont faites ces indemnités dessus, alors, il y a une partie de cotisation retraite, mais qui est minime, qui ne permet pas, notamment pour un certain nombre d'élus qui quittent une partie de leur emploi sur une quotité variable, aujourd'hui, d'être compensés par leur indemnité. Clairement, enfin, moi je peux en parler en connaissance de cause, quand je suis devenu maire d'Arnage il a fallu que je fasse des choix. J'ai quitté mon emploi, j'ai eu la possibilité de me mettre en détachement, qui est une situation particulière, puisque j'étais fonctionnaire. Mais clairement, ce que je touchais, l'indemnité que je touchais en tant que maire ne couvre pas ce que je... ce que je touchais quand j'étais fonctionnaire territorial dans une collectivité. Et donc, c'est aussi ça. C'est qu'à un moment, c'est bien beau de vouloir s'engager, mais il faut donner, semble-t-il, les moyens aussi pour que chaque élu puisse s'engager sans contrepartie.
On voit quand même que c'est les conseillers municipaux qui touchent le moins d'indemnités. Alors pourtant, le texte prévoit plutôt d'augmenter les indemnités des maires et des adjoints. Et la plus grosse augmentation serait de 10% pour les plus petites communes. Donc, on rappelle, un maire de toute petite commune touche 1048 euros en indemnités. Bon, ça ne semble pas être un changement majeur, ces augmentations, Thierry Cozic.
Non. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, mais le Sénat l'a ramené à 4%. 10% était la proposition initiale, ça a été ramené. Non, je dis une bêtise. C'est l'Assemblée qui l'avait ramené à 4% et le Sénat l'a remis à 10%. Voilà, excusez-moi, qui était la proposition, parce que cette proposition de loi part du Sénat à l'origine. Et donc, il y avait une proposition de revalorisation de 10%. Alors après, il faut savoir que dans chaque conseil municipal, il y a la possibilité de moduler ce qu'on appelle l'enveloppe, qui est constituée de l'indemnité du maire et des adjoints, pour la répartir comme le souhaite le conseil municipal. Les conseillers municipaux peuvent être défrayés si le conseil municipal le décide. Donc après, ça, c'est un choix souverain du conseil municipal que de donner une indemnité à l'ensemble des conseillers. Mais ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, le Code général des collectivités territoriales, tel qu'il est rédigé, ne permet pas d'indemniser un simple conseiller municipal dans les communes de moins de 100 000 habitants.
Donc pas d'augmentation majeure des indemnités, donc, mais tout de même une augmentation symbolique en quelque sorte. Est-ce que le risque, c'est pas malgré tout d'ajouter de la défiance de la part des citoyens ? Parce qu'on est dans un contexte où le projet de loi de finances prévoit plusieurs mesures qui vont encore baisser le pouvoir d'achat des Français, augmenter les indemnités des élus, pardon, même si ce n'est pas vraiment significatif. Est-ce que ce n'est pas envoyer le mauvais message ?
Vous savez, j'entends, et je vais être très, très honnête, ces 10%, c'est pas la maille, si je peux me permettre l'expression. On n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait été. Et pourquoi on n'est pas allé aussi loin ? Parce qu'on est aussi conscient du climat dans lequel s'inscrit ce texte de loi. Toujours est-il quand même qu'aujourd'hui, l'engagement citoyen, et je suis très surpris dans les rencontres au quotidien que je peux avoir, de personnes qui, à un moment, faisaient partie aussi en se disant, mais voilà, les élus s'en mettent toujours plein les poches, sont devenus conseillers municipaux et finalement découvrent une fonction passionnante, mais qui sollicite beaucoup de temps. Et je crois que c'est aussi ça, c'est comment on perçoit aujourd'hui l'engagement et le retour qu'on peut en avoir à titre personnel. Donc aujourd'hui, je pense qu'il fallait aller sur cette revalorisation, il aurait fallu aller plus loin, je le dis vraiment avec beaucoup de sérieux. C'est un premier pas, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je le redis, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous êtes maire 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est des missions qui demandent énormément de temps. Et souvent, les élus qu'on rencontre dans ces petites communes le font de manière désintéressée. Donc c'est aussi important qu'à un moment, la République leur rendre hommage en les accompagnant dans le mandat.
Et il y a une reconnaissance quand même de la part des habitants de tout ce travail.
Globalement, tout à l'heure, vous citiez les chiffres du CVPOF. C'est vrai que le maire reste l'élu de proximité privilégié. Toujours est-il quand même que dans les études, quand on affine les études, ça baisse. C'est-à-dire qu'il y a moins de 10 ans, le maire était plébiscité à plus de 80%. De mémoire, je crois qu'on est autour de 61.
69.
Donc ça a baissé. Je ne suis pas sûr, et là je prends ma casquette de sénateur, de parlementaire, que la vie politique dans l'État, l'instabilité politique dans laquelle on est aujourd'hui, n'aura pas une incidence demain aussi sur les élus locaux. Et on commence déjà à le constater, donc le signal est fort. Attention, je crois qu'il y a des signaux d'alerte, il y a des clignotants qui s'allume. Je crois qu'il est important de protéger nos élus et je crois que cette proposition de loi, elle avait vraiment cette vocation, c'est de répondre de manière imparfaite à l'accompagnement dans la vie citoyenne.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite voir cette loi être adoptée avant les municipales. Vous souhaitez également que cette échéance soit respectée ?
Oui, je le souhaite, d'autant plus que j'y ai participé à la rédaction. Donc c'est important. Il aurait été souhaitable qu'elle soit adoptée bien plus tôt. Bon, là, on a avancé. Elle devait être présentée au Sénat le 21 septembre. On On a pris un peu de retard. J'ai bon espoir qu'elle soit adoptée à l'Assemblée lors du prochain examen qui ne devrait pas tarder, pour pouvoir avoir un texte finalisé pour mars 2026 pour les futurs renouvellements de conseils municipaux.
Je vous remercie Thierry Kozik, sénateur de la Sarthe. Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.